Les informations, Claude Bousset.
Une nouvelle plateforme politique, Renaco, a vu le jour hier au jardin botanique de Kinshasa. Le regroupement des nationalistes congolais réunit 24 partis. Il soutient 3 candidats présidents de la République. Les médecins de Kisangani ont évalué leur mouvement de grève hier. Ils veulent corriger certaines choses pour pouvoir améliorer la qualité du service minimum à assurer aux malades qui se plaignent. Un centre universitaire pour l'Issala, chef-lieu du district de la Mongala à l'Équateur, l'évêque de ce diocèse, appelle les filles et les fils de cette province à mettre la main dans la poche pour permettre à cette institution de fonctionner dès l'année académique prochaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Sortie officielle du regroupement des nationalistes congolais, RENACO, c'était hier au jardin botanique de Kinshasa. Cette plateforme électorale s'est donnée pour objectif d'assurer le bien-être social au peuple congolais par une distribution équitable. 24 partis politiques sont signataires de l'acte constitutif de cette plateforme. On écoute Jean-Pierre Lissanga, il est secrétaire exécutif de RENACO, où les propos sont recueillis par Kélin Kouté. Là, c'était Jean-Pierre Lissanga, secrétaire exécutif de RENACO, regroupement des nationalistes congolais. Ses propos ont été recueillis dans la salle de jardin botanique de Kinshasa par Kélin Kouté. Silence radio, c'est le mot d'ordre de l'ARCO, l'association des radios communautaires du Congo. Ce silence a été observé hier sur plusieurs radios associatives et communautaires à travers la République. C'est pour protester contre le mauvais traitement subi par un journaliste du Maniema et un autre de Tchikapa. Comment ce mot d'ordre a été vécu des parts et d'autres du pays? Le point avec Mireille Boukassa.
Silence radio observé par la majorité des radios associatives et communautaires de Lubumbashi. À l'intérieur du Katanga, par contre, la plupart de ces radios ont fonctionné normalement parce que soit non informées, soit parce que croyant le problème résolu avec la libération du journaliste Sosthène Kambindi. À Butembo, Beni, Oicha et dans le reste du Nord Kivu, certaines radios sont restées muettes ce samedi, cas aussi de radio Ushirika de Kiwanja en territoire de Rutshuru. D'autres par contre, comme la radio-télévision La Colombe de Goma, dont le processus d'adhésion à l'ARCO est encore en cours, ont continué à émettre. À Kisangani, silence sur toutes les radios associatives et communautaires. Les auditeurs de Bounia sont restés aussi à l'écoute du silence sur les antennes de Canal Révélation et de Radio Candip. Au Kasaï Oriental, toutes les radios communautaires sont restées éteintes. Dans l'ouest de la RDC, silence observé par la radio communautaire de Moanda. Comportement similaire en Banzangungu avec les radios Vuvukieto, RTK2 et Ntemo. Situation identique avec Radio Mbangu de Kimpese. Enfin, à Boma, la radio Sangomalamo continue à émettre. Son directeur de programme a indiqué qu'aucune correspondance sur le mot d'ordre de l'ARCO n'a été adressée à sa radio.
Une centaine d'agents électoraux de l'Issala sont en colère. Ils ont fait un sit-in devant le bureau de liaison de la CEI l'Issala. C'était le troisième jour hier. Ils réclament le paiement de leurs primes parmi les manifestants, des superviseurs techniques provinciaux, des techniciens ainsi que des contrôleurs techniques. Certains affirment avoir travaillé depuis le début des opérations. Ils estiment être à bout des patience. L'un d'eux a été joué au téléphone par Ghislaine Nentobo.
Les 28 jours qui avaient été payés jusqu'alors, le reste des jours fermés, 62 jours n'ont jamais été payés. C'est comme ça qu'on est en train de réclamer cet argent. En plus de ça, il y a aussi les frais de délocalisation. Depuis que nous avons travaillé, nous avons été déployés dans la forêt. Nous avons travaillé durant toutes les opérations d'identification d'enrôlement, ainsi que pendant les référendums. Mais on n'a jamais payé les frais de délocalisation. C'est ici que nous sommes en train de revendiquer ces droits pour que nous puissions rentrer dans nos droits. On a donné le mémorandum au référendum de la Monique. Nous sommes allés voir les autorités locales, entre autres les CDT du district de la Mongala, l'AT, l'inspecteur de la police, et nous leur avons remis notre mémorandum. Mais ce que je suis en train de déplorer est que quand mes esprits sont vraiment surchauffés, tout peut arriver, madame.
Voilà, c'était là un de ceux qui revendiquent, des agents qui revendiquent leur prime à la CEI. Selon le président du bureau de liaison de la CEI, Lissala, jointe également par téléphone par Ghislaine Ntobo, l'APEC, chargée de la paye de ses agents, a promis de transférer leurs fonds. Elle travaille là-dessus. Dès le début de la semaine prochaine, une solution pourrait être trouvée. Le syndicat provincial des médecins s'est réuni hier à Kisangani. C'était pour évaluer le déroulement de la grève des médecins déclenchée depuis près de 2 semaines. Selon les malades, le service minimum mis en place ne profite pas à l'ensemble de ces malades. De nouvelles stratégies doivent donc être prises pour corriger cette situation. Reportage Godlive Omondo.
Les médecins présents à cette rencontre se sont félicités de l'observation de la grève dans tous les établissements médicaux publics de la province. Ils ont cependant déploré le non-respect de l'horaire de permanence par certains d'entre eux. Pour pallier cette situation, de nouvelles recommandations ont été formulées pour assurer la prise en charge optimale des malades. Docteur Roger Amissi, secrétaire provincial de Sinamed.
Nous devons faire une surveillance journalière pour contrôler si les camarades médecins respectent cela. Nous avons projeté de faire une évaluation de façon hebdomadaire. Nous devons aussi utiliser l'horaire de permanence et de garde pour que les malades sachent où aller et quand il faut passer.
Des malades se plaignent du manque de médecins de permanence. Ceux-ci ne sont présents à l'hôpital que pour quelques heures par jour. Plusieurs malades, surtout ceux en attente d'intervention chirurgicale, se sentent abandonnés. Cette femme, hospitalisée aux cliniques universitaires, attend l'opération de son bras gauche depuis le début du mois.
Je suis ici aux cliniques, j'attends qu'on allait m'opérer au cours de ce mois. Comme cela coïncide avec la grève, les médecins ne savent pas quoi faire. La nuit, je souffre beaucoup. Tout ceci à cause de la grève des médecins.
Le docteur Amissi précise que le service minimum n'intervient que pour des cas graves et urgents. Pour lui, les malades déjà hospitalisés doivent être suivis correctement. Il indique cependant que le dysfonctionnement du service chirurgical aux cliniques universitaires n'est pas lié à la grève, plutôt aux problèmes logistiques. Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Discordance entre le traitement et la prescription, coupure intempestive de stock de médicaments et l'augmentation des objets laissés en gage par les malades, c'est ce qui a motivé l'organisation d'une formation à l'intention des médecins de l'Ituri. L'ONG MEDER, qui appuie l'inspection du district de Bounia et de Djougou, a formulé certaines recommandations aux 45 participants de cette formation de 5 jours. Madame Cyril Chève, médecin à l'hôpital général de référence de Bounia, parle de ce qu'il a marqué à travers ce séminaire. Il est au micro de Mathieu Ilunga.
Et ce qui nous a particulièrement frappé dans ce séminaire, c'est qu'il y a eu des informations que nous avons reçues de la part des organisateurs. Aussi, il y a eu des contributions. Bref, nous avons été richement instruits en ce sens que des petites erreurs qui se font peut-être dans les prescriptions, en ce sens que les médicaments pour une pathologie quelconque, les diagnostics posés, on prescrit plus de médicaments que le besoin qui se présente. Le séminaire nous a aidé à pouvoir vous prescrire des médicaments tels que demandés et pour pouvoir limiter le nombre de médicaments dont le malade a besoin. Et cela aide aussi à pouvoir garder le stock. Du moins, nous savons que ça va beaucoup nous aider parce qu'on dit en science qu'on n'a jamais fini d'apprendre.
À Kindu, au Maniema, à travers l'hôpital général de référence de cette ville Kindu, les donneurs bénévoles de sang sauvent en moyenne 80 à 90 vies humaines par mois. Ceci a été dit hier, samedi 17 juin, lors de la manifestation des donneurs bénévoles du sang à l'occasion de leur journée qui est tombée plutôt le 14. Une centaine de personnes âgées de 18 à 65 ans ont montré leur fierté à être donneurs bénévoles de sang. C'est un reportage de Rigobert Yumandouani.
C'est sous ces rythmes que les donneurs ont montré leur fierté. Ils disent qu'il y a eu ce sang gratuitement de Dieu. Ils ne peuvent le donner aussi que gratuitement. Ils parlent à Françoise, les donneuses bénévoles. Ce qui m'a poussé à devenir donneuse bénévole, c'est le résultat du test de mon sang qui m'a révélé que j'étais en bonne santé. Alors, j'ai eu l'idée de sauver la vie de mes frères et sœurs qui manquaient du sang. C'est ainsi que je me suis décidé d'aider les autres avec ce sang et gratuitement. Ce sang est conservé à l'hôpital général des références de Kindu. Docteur Blaise Barozi est le médecin coordonnateur provincial. Il explique dans quelles conditions ce sang est conservé.
Nous prélevons ce sang-là, nous l'amenons à l'hôpital général, là où nous allons faire différents tests. Après avoir fait tous ces examens, le sang qui est jugé bon, nous le gardons au frigo, qui est à température entre 2 degrés et 8 degrés. Et cette température est sous surveillance et cette conservation ne doit pas aller au-delà de 30 jours.
Cette banque de sang sauve des centaines de vies humaines depuis plus de 2 ans qu'elle existe. Témoignage du médecin directeur de l'hôpital.
Et avec la présence de la banque de sang ici, on a toutes les garanties de transfusion. Ne serait-ce que pour le mois passé, nous avons consommé 91 unités de sang. Vous imaginez toutes ces personnes-là nécessiteuses du sang. Et s'il n'y avait pas une banque de sang, et cela se solderait par des décès.
À la fin de la cérémonie, le président fédéral des donneurs a exhorté tout le monde à se faire examiner afin de devenir donneur bénévole.
À Uvira, au sud Kivu, la section de protection de l'enfance de la MONUC hausse le ton après avoir constaté un nombre élevé d'enfants au cours d'une manifestation organisée hier par la société civile de Uvira. La section droits de l'homme de la MONUC rappelle aux différents acteurs et groupements sociaux et politiques de ne pas utiliser les enfants à des fins politiques ou propagandistes. Reportage d'Uvira, Serge Maïch.
Ils étaient une centaine d'enfants encadrés par 5 personnes adultes, dont le président de la société civile section d'Uvira. Les manifestants enfants arrêtaient toutes les voitures, les motos et les vélos sur la chaussée pour y coller de feuilles d'arbre en signe de révolte. Au lendemain de la journée internationale de l'enfant africain, Déomi Igo, officier de protection de l'enfance, s'indigne.
Nous trouvons que ces enfants ont été manipulés par certains adultes. Je vous saisis de cette occasion, surtout en cette période des élections, pour rappeler la population que la vigilance de tous s'impose pour protéger les enfants contre les violences et les risques éventuels qui attendent les enfants en cette période électorale.
Une présence d'enfants que les organisateurs de la manifestation avait du mal à justifier. Ferdinand Bitawa, président de la société civile à Uvira.
Il est difficile, pendant la manifestation, de pouvoir trier les gens.
Vous vous rendez compte qu'il y a 90% au lendemain de la journée internationale de l'enfant.
Je répète encore une fois qu'il est difficile de pouvoir défendre à un enfant d'entrer dans la manifestation. Il n'y a pas un triage à faire.
À la veille du début de la campagne électorale, la section de protection de l'enfance de la MONUC rappelle à tous les acteurs de la transition qu'il est interdit d'utiliser les enfants aux fins électorales. Ouvira, Serge Maéché, Radio Okapi.
La ville de Lissala, dotée d'un centre universitaire, une extension de l'université de Kinshasa, une messe d'action de grâce a été dite hier à la paroisse Saint-Raphaël de Limité par Monseigneur l'évêque de Lissala, Louis Nkinga. C'était pour sensibiliser les ressortissants de la province à soutenir financièrement cette œuvre qu'ils voudraient voir commencer les activités, débuter déjà au mois d'octobre prochain. Écoutons l'abbé Liévin Engbanda Lingongé, secrétaire général académique au centre universitaire de Lissala, au micro de MNCA.
Par l'acte de création, notre centre universitaire a été confié au trésor public. Il y a 5 facultés prévues. Pour ne pas trop embrasser dès le début, nous allons commencer par 3 facultés. La faculté d'agronomie, la faculté de droit et celle de psychologie et sciences de l'éducation. Et nous avons la volonté de faire fonctionner l'université dès octobre. Avant même que l'arrêté soit signé, c'était une des conditions. Nous devions prouver auprès du ministre que nous avons suffisamment un personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier. Alors, on a essayé de contacter certains professeurs qui sont totalement d'accord, surtout ceux de l'Université de Kinshasa, ceux des facultés que nous organisons, comme la faculté de l'agronomie, on a déjà plus de 5.
Des nouveaux cadres pour l'administration des prisons au Congo, ils ont été formés à l'École nationale de l'administration pénitentiaire d'Agen en France. La cérémonie de remise de diplôme à ces jeunes, à ces nouveaux cadres a eu lieu hier à l'Alliance franco-congolaise de la Gombe à Kinshasa. Ils ont fait 14 semaines de formation à l'École nationale d'administration publique et dans les établissements carcéraux français et congolais. Ces diplômés se disent satisfaits. Une demoiselle parmi ces diplômés, c'est mademoiselle Deco. Elle dit ses sentiments au micro de Kéline Kouté.
Aujourd'hui, c'était la remise des diplômes au directeur congolais des prisons. Et on a passé un stage, on a fait 6 mois en stage et deux mois de stage, on les a passés en France. Et ici, on est revenu 2 mois plus tard pour passer le stage dans les différentes prisons, en RDC. Maintenant, on est en attente des affectations. On ne sait pas trop, ça sera pour quand.
Voilà, on ne peut construire ni développer un pays sans la participation des ingénieurs civils. C'est l'essentiel du message lancé par l'Association congolaise des ingénieurs civils, ASIC, lors de l'Assemblée générale élective tenue hier samedi à Kinshasa. Selon le chargé des relations publiques de cette association, la SIC s'est assignée comme objectif la promotion des ingénieurs civils et de l'industrialisation du pays. On écoute Flori Massoua, ingénieur Flori Massoua, interrogé par Mireille Boukassa.
Tous les axes principaux de l'industrialisation, du développement technologique doivent nécessairement passer par les ingénieurs civils qui constituent la toile de fond de l'industrialisation. Notre pays est doté justement de beaucoup de bois et beaucoup de roches calcaires qui permettent justement à fabriquer du ciment. Nous avons beaucoup de cimenteries dans notre pays. Les matériaux de construction ne peuvent pas poser un problème au Congo. Comme très généralement, l'économie du pays est souvent extravertie, pensez souvent aux intérêts de ceux qui viennent avec leurs investissements. Il faudra que ça passe dans des mailles pour que les ingénieurs civils puissent d'abord voir ça, examiner tout ce qu'on peut venir nous proposer comme aspect d'investissement ou d'industrialisation ici au pays.
C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Héritier Sidiakala qui a mis en onde cette émission. Merci aussi à toute l'équipe d'information. Rendez-vous toutes les heures avec Jacques Matan Diambi et Mireille Boukassa.